Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous. Vous savez que je ne fais pas de publicité habituellement sur le podcast, c'est pas mon objectif. Mais pour une fois, j'ai une cause qui me tient à cœur et dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du Téléthon, une association que vous connaissez certainement et qui fait un travail incroyable depuis 30 ans pour aider la recherche à guérir des enfants atteints de maladies rares. Et ça commence à marcher d'ailleurs, car ils ont eu cette année leur première victoire d'enfants qui guérissent effectivement suite à leur traitement. Alors j'ai voulu m'investir pour cette cause et contribuer à ma manière. Donc cette année, avec Gemio, qui est pour ceux qui ne le savent pas l'entreprise que j'ai créée et que je dirige avec mes deux associés Sharif et Malek, on a voulu s'impliquer et on a donc conçu une petite peluche en forme de chat rose toute mignonne avec pour objectif de la vendre sur le site de crowdfunding KissKissBankBank pour reverser tous les bénéfices de cet achat en intégralité au Téléthon. Avant ça, j'avais jamais vraiment soutenu ouvertement une association, mais j'avoue que j'ai été vraiment touchée par l'implication totale des personnes au sein de l'AMF Téléthon, leur joie de vivre, leur envie de faire bouger les choses. Et ce qu'il y a de plus fou dans tout ça, c'est qu'en fait, ce sont pour la plupart simplement des parents, juste bien décidés à sortir leur enfant malade du désert médical. C'est pas vraiment dans mes habitudes de demander de vous quoi que ce soit, mais pour ceux que cette cause touche aussi, sachez que l'achat d'une peluche a vraiment un impact et que le fait de relayer cette opération sur les réseaux sociaux ou d'en parler autour de vous peut réellement contribuer à aider la recherche. Alors je laisserai le lien vers la page KissKissBankBank pour acheter le chaton, en lien dans le descriptif du podcast, dans la bio aussi de mon compte Instagram et sur mon blog. Et vous pourrez bien évidemment aussi trouver toutes ces références sur la homepage de Gemio, www.gemio.com. Votre don peut faire une réelle différence, sachez-le. Et par ailleurs, notre petite peluche est vraiment trop mignonne. Elle est réalisée de manière 100% artisanale avec la jolie marque La Pelucherie. Donc c'est aussi un vrai joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Mais assez parlé du Téléthon et de peluches, même si c'est très sympa, je vous propose de revenir au podcast. Comme vous savez, donc Le Gratin est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite. On parle du succès au sens large et dans des domaines vraiment variés, la nutrition, l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi. J'essaie de brasser assez large. Je voulais vous dire un petit détail pratique sur la période de fin d'année. C'est très chargé pour moi, donc je pense ralentir un petit peu le rythme, passer certainement à une fois toutes les deux semaines en termes d'épisodes. C'est pas totalement définitif, mais si vous voulez être sûr de ne pas louper un épisode, pensez simplement à vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud. Et aujourd'hui, mon invité est Alain-Dominique Perrin. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ce nom, mais dans le secteur du luxe, la Sainte Trinité est composée de trois personnalités, Bernard Arnault, François Pinault et Alain-Dominique Perrin. Et dans la joaillerie en particulier, un secteur qui me parle comme vous le savez, ça se resserre. Il y a au fond une seule personne, un seul nom qui soit réellement révéré, tout simplement parce qu'il a inventé la joaillerie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce nom, donc vous l'avez deviné, est Alain-Dominique Perrin. Donc vous pouvez imaginer que j'étais assez excitée de pouvoir interviewer Alain, de poser des questions à celui qui a littéralement fait passer la maison de quartier de 4 millions de francs à des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais je vous rassure, même si j'étais assez tentée, on n'a pas parlé que de joaillerie. Plus fondamentalement, on a parlé des enseignements qu'Alain a tirés de ses 50 ans de carrière, les talents nécessaires à un dirigeant de grand groupe, les challenges de l'entrepreneur qui passe d'une petite structure à un grand groupe mondial, sa passion pour le business aussi et pour la multiplicité des projets. On a parlé de sommeil, de sport, d'art contemporain, de camping, de bon vin et j'en passe. On a été vraiment dans tous les sens. Et vous savez certainement, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, que ce trait de caractère, que cette passion pour les projets, c'est quelque chose qui me parle particulièrement et qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler une autre personne que j'admire beaucoup, Jacob Abou, qui est un homme formidable et que j'ai interviewé dans le cadre de l'épisode 6 que je vous recommande. J'espère sincèrement que l'épisode va vous plaire. C'est un immense privilège pour moi d'avoir pu poser toutes ces questions à une telle icône du luxe dans le monde. Vous verrez, en plus, évidemment, avec Alain, c'est comme d'habitude, les personnalités les plus exceptionnelles sont souvent les plus généreuses et les plus humbles. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain-Dominique Perrin. Bonjour Alain, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Déjà parce que, évidemment, tu es une icône dans le monde du luxe et que ça me parle évidemment avec Gémio. Mais aussi parce que ton parcours et ta personnalité ont été des modèles pour moi, tu le sais. Et autant te dire que quand j'ai fait ma recherche, parce que je fais toujours des petites recherches quand je fais ces interviews, habituellement j'ai à peu près 2-3 pages sur quelqu'un. Là, la personne qui m'assiste avait 8 pages et m'a laissé une petite note en me disant « j'aurais pu en faire 5 de plus ».
Oh, mais c'est trop.
Et donc je me suis dit « ça va être difficile de tout faire passer en 45 minutes, 1 heure », mais j'ai quand même des questions un peu sur tous ces projets. Et du coup, ma question première justement, c'est d'où te vient cet amour du business et cet amour des projets? Justement, tu en as lancé énormément, il y a Cartier évidemment, une marque pour laquelle tu as travaillé pendant des années, mais il y a aussi Château La Grésette, il y a l'art contemporain, enfin, il y a énormément, énormément de choses. Qu'est-ce qui te plaît autant? Qu'est-ce qui te donne cette énergie?
Alors, j'en sais rien, parce que je suis fils et petit-fils d'ingénieur. Mon père était ingénieur de génie maritime, mon grand-père était centralien. Donc, je suis d'une famille d'ingénieurs et je n'ai rien d'un ingénieur.
C'est vrai, j'allais dire.
Strictement rien. Je suis le mouton noir de la famille, je suis un commerçant. Je suis un homme de marketing, je suis agité et dispersé. Je m'intéresse toujours en même temps à 2, 3 ou 4 choses. J'ai toujours plusieurs choses, plusieurs lignes à l'eau. Et c'est comme ça, c'est ma nature. Je suis toujours en train de jongler avec des assiettes chinoises. Mais finalement, je m'en sors bien parce que ça fait des années que ça dure. J'ai 76 ans. J'ai commencé à jouer avec des assiettes chinoises vers 22 ou 23 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Voilà, c'est ma nature, je suis comme ça, je suis différent des autres personnes de ma famille. Mais ce que je retiens quand même, c'est que j'ai transmis à beaucoup de gens autour de moi l'enthousiasme et l'esprit d'entreprendre. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Voilà.
Oui, bien sûr. Et alors justement, tu as tout de suite parlé de ton enfance. Tu es né à Nantes, si je ne me trompe pas. Et donc tu m'expliquais que ta famille, en fait, elle n'avait rien à voir avec le monde d'entreprise. Donc moi, justement, je me posais, il n'y avait pas du tout de culture de l'entreprise chez toi. Pourtant,
mon père était le patron d'un chantier de construction navale à Nantes, important. Il y avait 1000 employés. Il fabriquait des sous-marins notamment, et des bateaux très particuliers, notamment des transporteurs de gaz, ce qu'on appelle des méthaniers. Donc c'était de la haute technologie à l'époque. Et mon père était, oui, un patron pur et dur.
D'accord, donc t'as quand même eu cette culture-là.
La fibre de l'entreprise, je la tiens de lui. Mais mon père était plus un dirigeant qu'un entrepreneur.
Et toi, du coup, j'ai vu aussi que t'as commencé assez tôt à entreprendre, un peu sur tous les tableaux.
Très tôt, oui.
Est-ce que tu peux me raconter comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à le faire à l'époque? Parce que je crois en plus que t'entreprenais en même temps que tes études.
Ah oui, même avant. Ma première entreprise, c'était les pulls en Shetland. Je devais avoir 16 ans et j'allais déjà en Angleterre tous les ans pour apprendre l'anglais. J'allais à Londres et notamment à Londres, j'ai découvert un jour un magasin près du British Museum qui doit exister encore d'ailleurs, qui s'appelait Westaway et Westaway.
Ouais.
Et Westaway et Westaway, c'était les Shetland de toutes les couleurs que les nanas portaient au ras du nombril à l'époque. Toi, tu n'étais pas né.
Non.
Et c'était la folie complète et c'est une folie qui est arrivée en France. Et j'ai surfé sur la vague. Et j'allais à Londres en voiture. À l'époque, je n'avais pas encore mon permis. Donc, j'allais en voiture avec des amis, puisque moi, je ne conduisais pas. Et on revenait avec le coffre plein de pulls en Shetland.
Donc, débrouille quand même.
Voilà, on se débrouille. Et on les revendait rue Saint-Benoît. Je m'en souviens encore, dans le quartier latin. Ça a été ma première entreprise.
Et ça, t'avais quel âge à l'époque?
Là, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Mais ça a duré pendant 2-3 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent avec ça. Parce que des pulls, j'en ai pas vendu 12, j'en ai vendu 12 000.
Et puis ça n'existait pas en France, en fait. Il n'y en avait quasiment
non,
pas.
Non, à l'époque, j'avais même pris une de mes amies à Nantes, qui n'est plus vivante malheureusement, qui s'appelait Nicole. Et elle revendait pour moi mes pulls en Shetland, Westaway, à Nantes. Et on me surnommait King Pull. Voilà, mes premières entreprises. C'était avant mes 18 ans.
Bon, et ensuite, j'ai vu que, du coup, tu montes des boîtes dans l'Antiquité. Là aussi, comment tu tombes là-dedans? Et puis, j'ai vu que ça s'est développé quand même, parce que tu en avais plusieurs à cette
époque. Oui, absolument. J'avais 3 magasins. J'ai démarré à Noirmoutier, un magasin d'Antiquité. Je devais avoir J'étais fiancé à l'époque avec Catherine, la maman de ma première fille, Julie. J'étais, je vais voir, 22, 23 ans. Mm. Et j'ai monté un magasin d'antiquités spécialisé dans les antiquités régionales à Noirmoutier, qui était un magasin saisonnier. Et puis, après, j'ai été parmi ceux qui ont acheté dans les premiers des emplacements d'antiquaires au Louvre des antiquaires. Mmh. Donc ça doit être en, je dirais, 70 peut-être, mmh. 70. Donc en 70, j'ai 27 ans.
Et comment voilà. toutes ces opportunités te viennent à l'esprit ? Parce que souvent, j'ai beaucoup de personnes qui entreprennent, qui écoutent le podcast ou qui essayent d'entreprendre, qui pensent. Trouver des idées, se lancer dans, voilà, tu vois, sur un nouveau marché que tu connaissais pas forcément, parce que les antiquités, j'imagine, t'avais pas ça dans ta famille, quoi. Qu'est-ce qui te... C'est comment tu identifies les opportunités ? Comment tu dis, là, j'y vais ?
Alors, d'abord, j'ai été élevé dans ça. Mes parents, mon grand-père et mes parents étaient très collectionneurs d'œuvres d'art, beaucoup de peintures, pas mal de sculptures, et j'ai toujours vécu chez moi avec des meubles, des beaux meubles, des meubles anciens. Donc j'ai toujours eu le culte du meuble ancien. Je m'y suis intéressé très vite. Mon frère aussi, d'ailleurs. Donc, à l'époque, je me documentais pas mal. J'allais beaucoup chez les brocanteurs et les antiquaires. J'ai commencé à tripoter, je dirais, la brocante et l'antiquité et à faire des opérations d'achat et de vente dès l'âge de 19-20 ans. Donc, c'est pas arrivé comme ça un matin.
D'accord.
Y avait vraiment une disposition. Et j'avais, Dieu merci... certainement un don, c'est que j'avais vraiment le sens des proportions, le sens des objets, et ça, je l'ai eu très jeune. J'ai très jeune repéré les objets, les bonnes idées, les bonnes proportions, les choses qui allaient bien ensemble, et ça m'a accompagné toute ma vie, parce que toute ma vie avec Cartier, ça a été ça, en fait. Et je continue d'ailleurs, je continue à aider Cartier, beaucoup, beaucoup, à choisir ou à ne pas choisir, les bons objets ou les bonnes proportions, les bons dessins de joaillerie, etc.
Bah, y a un mythe dans le milieu, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien, que les lettres ADP sont signées sur quasiment tous les dessins, en fait, et que tu valides encore aujourd'hui.
À l'époque où j'étais le patron de Cartier, oui, je l'ai été pendant très longtemps. Maintenant, c'est fini, c'est plus moi qui signe, mais c'est moi qui donne mon avis. Bon. Et puis, il l'écoute ou il ne l'écoute pas. Mais en général, ils l'écoutent.
Ben justement, alors je voulais te parler de Cartier, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Cartier, avant, n'était pas uniquement une marque de joaillerie. Il y avait aussi d'autres choses. Il y avait notamment donc, les briquets Cartier. Je sais que tu as commencé en fait, chez Cartier via la société donc, de briquets, aux côtés donc, de Robert Hock, qui je crois a été ton mentor. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es tombé là-dedans ? Comment tu quittes Nantes ? Tu montes à Paris ? Comment tu rencontres Robert Hock et qu'est-ce qui se passe à cette époque ?
Alors, je quitte Nantes plus simplement du monde pour y faire des études supérieures. Je rentre à l'école, à la célèbre école des cadres,
bien sûr.
Qui plus tard, on en reparlera plus tard, sera une école que j'ai reprise, rachetée avec des amis, retapée, et j'en ai fait une école importante,
tout à fait.
Qui s'appelle maintenant EDC Business School. Donc je suis monté à Paris faire mes études de manière banale. J'avais commencé, comme je te le disais, avec un magasin d'antiquité à Noirmoutier. J'ai continué un peu plus tard avec deux magasins à Paris. Et j'ai répondu à la fin de mes études à une première annonce dans le monde. Et je me suis retrouvé dans une affaire qui s'appelait Brochage Express, papeterie du Verger. C'est amusant parce que... Pourquoi j'en parle ? Parce que j'y suis pas resté longtemps. J'ai fait un peu de marketing et de vente. Mais la papeterie du Verger a été la première affaire que Bernard Tapie a rachetée.
Ah, c'est marrant.
Voilà, c'est comme ça que j'ai connu plus tard Bernard Tapie. J'ai connu il y a très longtemps. Et Bernard Tapie a repris la papeterie du Verger, comme à son habitude, il l'a relancée, il a dû larguer l'immobilier pour en faire un bon profit, peu importe. Mais voilà mes débuts dans les affaires. Mais je me suis très vite ennuyé aux papeteries du Verger et je suis retombé sur deux annonces dans le journal Le Monde. Une qui ne donnait pas l'identité de la marque, mais qui suggérait de prendre contact avec une marque spécialisée dans les briquets de grand luxe, et qui voulait lancer un briquet de luxe, etc. Bon, c'était le briquet Cartier, qui n'était pas encore lancé.
Ouais,
et
d'accord.
Puis, il y avait une autre marque qui était Austin Morris, les voitures, et qui me proposait le même job, en fait. Dans les deux marques, on me proposait de prendre une espèce de direction de marketing et vente. À l'époque, c'était un peu mélangé. Et je me souviens que Morris Austin m'avait donné leur accord pour un salaire supérieur à celui que me proposait le briquet Cartier. Mais finalement, j'ai basculé pour le briquet Cartier parce que j'ai rencontré Robert Rock. Et ça a été une histoire d'amour, vraiment, entre cet homme et moi. Il m'a beaucoup, beaucoup... on s'est entendu comme père et fils. Et il m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de lui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est avec lui que j'ai démarré et lancé les Meufs de quartier.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, juste pour les personnes qui ne connaissent pas le mythe, parce que c'est vraiment mythique maintenant dans le secteur du luxe, mais comment justement en fait tu as lancé notamment le petit livre rouge de quartier, des Meufs de quartier, qui est devenu donc le succès commercial énorme qu'on connaît. Quel était ton mandat et quelle était ta vision et d'où venait cette inspiration?
Alors, le petit livre rouge qui est devenu, que j'ai toujours, j'ai des copies encore ici, c'était en fait un livre dans lequel j'avais exposé à Robert Rock un projet de développement de quartier à l'image du briquet quartier que lui fabriquait parce qu'il était propriétaire de Silver Match à l'époque. Et c'est lui qui avait négocié avec Cartier, qui était une affaire en perdition.
Oui, à l'époque, il faut savoir que ça faisait...
une licence pour développer un briquet sous la marque Cartier. Comme Cartier avait besoin d'argent, ils avaient dit oui. Et Rock avait donc créé un briquet sous la marque Cartier, un très joli briquet, et m'a embauché pour vendre ce briquet tout au début. Ce que j'ai fait, et ça a très très bien marché. À l'image du succès du briquet, je suis allé voir Rock et je lui ai dit, on peut faire beaucoup plus. Et comme Cartier a besoin d'argent, on peut faire un stylo, on peut faire du cuir, on peut faire des montres, on peut faire des tas d'objets sous la marque Cartier, à des tarifs plus abordables que la joaillerie et que les choses très chères. Et c'est complètement dans l'air du temps et on peut le développer. Rock m'a dit, d'accord, commencez à étudier ça, faites-moi un projet. Donc j'ai étudié ça avec plusieurs personnes, je n'ai pas fait tout seul.
Oui.
Et on est sorti avec ce projet qui s'appelait les Meufs de quartier. Bon, les Meufs de quartier, c'est, pour les gens qui parlent anglais, c'est facile à comprendre. Ça veut dire en fait les objets qu'on se doit d'avoir, les objets branchés. Et c'est bon, le succès, je fais court. Le succès a été vertigineux puisque ça a été un succès mondial. Et les Meufs de quartier, en fait, ont été l'entreprise qui a retapé Cartier, qui a réenrichi Cartier et qui a remis Cartier sur les rails du succès. Je le répète, Cartier, dans les années 70-71, c'était plus rien.
C'est ça. À l'époque, tu estimes que ça faisait combien de chiffre d'affaires à l'époque? Tu as une idée? Parce que pour que les gens se rendent compte quand même de...
Moi, c'était des francs.
Développement incroyable.
Je me souviens très bien que Cartier, à peu près en 71-72, faisait 4 millions de francs.
Oui, c'est rien.
Bon, ce qui est rien, c'est même pas 2 millions d'euros. Quoi. Ouais. C'était un peu plus petit, je dis une bêtise. C'est un peu plus. Mais c'était un magasin à Paris, un magasin à Monte-Carlo, un magasin à Genève et un magasin à Hong Kong. Cartier Londres ne nous appartenait pas, n'était pas de la même famille.
D'accord.
Et Cartier New York non plus. Donc c'était très peu de choses. Et comme je viens de te le dire, la marque Cartier était totalement éclatée. Il y avait un magasin à New York indépendant, un magasin à Londres indépendant et les magasins que je viens de citer sous la houlette de Cartier Paris. Et c'était un joyeux boxon, pour parler clairement, et ça perdait de l'argent. Voilà, on a repris ça en main. Grâce au must, on a rentré du cash dans la maison et on a pu restructurer cette maison. Et la fille de Robert Rock, Nathalie Rock, m'a rejoint à peu près en 1974. Et elle s'est occupée, elle, de la division joaillerie qu'on appelait la rue de la paix. La rue de la paix, c'était le magasin de joaillerie de quartier qui était un magasin célèbre et bien situé, mais terriblement vide et qui fonctionnait quasiment plus. Nathalie l'a redéveloppé, je dois dire qu'elle l'a très bien fait, et a en même temps redéveloppé ce qu'on appelle aujourd'hui la haute joaillerie, à cette époque-là, pendant que moi je développais les musts.
Ouais. Et ta vision, justement, c'est ça qui est hyper innovant, en fait, surtout à l'époque, c'était de démocratiser donc, la marque Cartier, qui était, il faut se le dire pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'était déjà quand même dans l'imaginaire du très 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 haut de gamme.
Oui.
Pour autant, donc, t'es allé faire des briquets, des stylos, etc. Et ensuite aussi, donc, avec Nathalie, j'imagine, développer la partie plus joaillerie, mais aussi sur certains produits plus accessibles. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, pour faire ça? Et quelle était ta vision, entre guillemets? Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question d'aller même plus loin dans la démocratisation? Ou au contraire, tu te disais, non, il faut quand même stratégiquement toujours garder cette image très, très haut de gamme de quartier et juste avoir quelques produits quand même plus accessibles?
Alors, ça, c'est une question simple. Et je vais t'y répondre, ça prend un petit peu de temps. Lorsque j'ai fait l'étude, la préparation des musts, j'ai étudié le marché de l'époque. Et le marché de l'époque, il était relativement simple. Le roi du luxe absolu de l'époque, c'était Pierre Cardin. Pierre Cardin était la star totale, Yves Saint Laurent était un petit débutant, et Chanel était une affaire extrêmement licenciée. Ça veut dire que c'est une affaire qui donnait des licences à tout va dans le monde entier,
ouais,
et qui faisait faire comme Cardin, pratiquement tout par des licenciés.
Ouais, c'est ça.
En étudiant ça de plus près, je me suis rendu compte que Cardin et Chanel perdaient leur âme et perdaient leur identité, car ils étaient en fait dans les mains de leurs licenciés. Les licenciés, c'est quoi ? Ce sont des gens à qui tu confies la marque, moyennant des royalties, et tu les laisses développer des chaussures, des ceintures, des culottes, des sacs, des bagages, des montres, des briquets, des lunettes, peu importe. Et finalement, au bout d'un moment, tu perds la marque.
Oui, bah t'as plus le contrôle.
À l'époque, Cardin avait 2000 licenciés dans le monde.
C'est énorme.
Donc inutile de te dire qu'il ne contrôlait plus rien.
Ouais.
Il faisait une fortune, c'était une star absolue, mais il ne contrôlait plus rien. Et lorsque j'ai constaté ça, je me suis dit, il faut que je fasse le contraire. Donc je suis parti avec les Mœurs de Cartier sur la théorie exactement contraire. C'est-à-dire imaginer, dessiner et faire des prototypes des produits que tu as envie de développer, des briquets, des stylos, on en vient d'en parler, des porte-clés, peu importe. Mais surtout ne pas donner la fabrication et la distribution en licence. Faire tout soi-même, intégrer verticalement les produits à l'intérieur de la marque. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est plus cher.
Ouais, c'est
il y a
ça.
Plus d'investissement. Il y a plus de temps. Il faut trouver les bons sous-traitants. Et j'ai commencé. Alors, on a d'abord fait le briquet avec Silver Match. Mais tout de suite après, j'ai fait le cuir avec une entreprise en Italie qui s'appelait Serapian, qui maintenant, d'ailleurs, appartient à un autre groupe. Ah. On l'a racheté 30 ans après.
Oui, forcément.
J'ai commencé à faire des montres avec la maison Ebel à l'époque. Donc, en fait, j'ai trouvé des sous-traitants pour financer la production. Car moi, je n'avais pas les moyens de la financer. Mais les sous-traitants, ils finançaient la production sous notre surveillance et pour notre compte. C'est-à-dire qu'une fois que le produit, la montre par exemple chez Ebel ou le cuir chez Serapian était terminé, ils me le vendaient à nous, Cartier. Et nous, nous le revendions sous la marque Mœurs de Cartier. Voilà, c'est ça tout le secret. On a tué les licences au profit de l'intégration verticale, ce qui nous a permis de faire de la meilleure qualité, de toujours avoir le contrôle de la marque, jamais perdre la main sur la marque. Et bien entendu, ce qui est encore plus important, de contrôler le service après-vente. Parce que dans les métiers du luxe, le service après-vente est un élément qu'on oublie souvent, alors que c'est un élément essentiel du marketing mix.
Bien sûr. Et tu le disais, Cartier, au tout début, quand tu es arrivé, et même à cette époque, n'était pas encore une marque où il y avait tellement d'argent que ça, même si vous avez quand même généré beaucoup de cash. Donc là, je comprends comment vous avez financé la création, la fabrication. Au niveau de la distribution, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que, enfin, moi, je le vois avec Gemio, créer une marque de joaillerie et essayer de la rendre connue, ça coûte très, très cher. Vous n'aviez pas tant d'argent que ça. Maintenant, on se dit, OK, Cartier, ils ont les moyens de faire énormément de communication. Comment, toi, est-ce que tu as réussi à innover au départ pour réussir à rendre ces musts aussi musts, justement?
Bah, au début, je te le dis, j'y suis allé moi-même. Hein, j'allais vendre moi-même. Et au début, bon, d'abord, Internet n'existait pas, ne l'oublions pas. Donc, j'allais revendre ou à des joailliers ou à des joailliers bijoutiers ou beaucoup au tabac de luxe. Car à l'époque, les tabac de luxe qu'on appelait les civettes étaient des gros vendeurs, évidemment, de briquets, mais de stylos et de cuir.
Ouais.
Donc, j'ai surtout développé, en fait, les Mœurs de Cartier au début avec briquets, stylos et cuir.
Donc, tu as innové sur la distribution
quand
même.
Et les montres, j'ai sorti une collection de montres en or en 1973 que j'ai vendue, évidemment, dans les magasins Cartier, mais chez quelques grands bijoutiers français, allemands, anglais, etc. Et très vite, j'ai imaginé cette fameuse collection des montres Mœurs de Cartier, qui étaient des montres en vermeil, car à l'époque, l'or avait flambé, le prix de l'or était très très haut. J'ai sorti des montres en vermeil, qui étaient des montres en argent massif, plaqué or, 20 microns. Bon, et là, c'était un succès phénoménal. Si tu veux, on va dire, j'ai lancé ça en 76. On va dire qu'en 76, en gros, on vendait, Cartier vendait entre 4 et 7 000 montres par an. Avec les montres de Cartier, j'ai atteint 100 000 montres très rapidement.
Incroyable.
Voilà, et donc l'explosion, c'est ça. C'est à la fin des années 70. Les montres Mœurs de Cartier ajoutées au cuir, qui est cuir Bordeaux, qui était un immense succès, ajoutées aux briquets,
on
vendait 300 000 briquets à l'époque.
C'est dingue.
Et ajoutées à quelques autres produits, comme je te disais, les porte-clés ou les stylos, des choses comme ça, du jour au lendemain, enfin en quelques années, les Mœurs de Cartier est passé d'une PME à une très grosse affaire. Et à l'aube des années 80, en 78, 79, les Mœurs de Cartier beaucoup plus important que l'affaire Cartier elle-même.
Oui, que la joaillerie.
Et c'est à l'époque qu'on a fusionné, qu'on a créé Cartier International, dont j'ai été président dès 1980 ou 81. Et voilà. Et le début de Cartier, le début de succès de Cartier,
c'est vraiment à cette époque-là. Ouais.
Maintenant, Cartier, c'est des milliards.
Bien sûr. Bah, voilà. C'est ça qui est impressionnant quand même, se dire qu'en 30 ans, on passe de 4 millions d'euros ou même de francs de chiffre d'affaires à des milliards aujourd'hui.
Quelques milliards d'euros.
C'est, bah, ça fait plaisir de savoir que c'est possible, écoute. Et donc, justement, bah, très belle transition parce que je voulais parler de la période un petit peu après où tu es devenu donc, président, enfin patron de Cartier International et ensuite vice-président de Richemont, donc quand le groupe
Je suis président de Richemont. J'étais président de Richemont de la fin 98 jusqu'à 2004.
Là, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup de gens, donc toi, tu es un entrepreneur, beaucoup de personnes, quand ils sont entrepreneurs, ont des difficultés à passer le cap du grand groupe, de la grande structure. Parce qu'en fait, le métier, il change quand même énormément. Et du coup, toi, tu as vraiment vécu ça. Donc, ma question, c'est avec le recul, comment est-ce que ton job a évolué à cette époque-là? Et quels ont été les challenges pour toi? Ou au contraire, qu'est-ce que tu as constaté quand on passe, une fois de plus, d'une structure qui, à l'époque, faisait 2 millions à un groupe comme Richemont où tu es président? J'imagine que ton métier n'a rien à voir, tes activités n'ont rien à voir, tes challenges n'ont rien à voir. Qu'est-ce que tu peux me dire avec un peu de recul sur l'évolution et toi, en fait, comment tu t'es formé là-dessus et quels ont été tes challenges?
Si tu veux, moi, je pense que le challenge principal pour un entrepreneur et pour un patron, et c'est très important ce que je vais te dire parce que malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, c'est l'humilité. Les patrons ne sont jamais humbles. Et je pense à certains grands patrons français, que je ne citerai pas, qui ont pour moi un seul défaut, c'est d'être vaniteux. Il faut connaître ses limites. Moi, je suis un homme de marketing, je suis un homme de création, je suis très à l'aise avec les produits et je suis un homme de vente et de terrain. Et je suis très à l'aise avec le terrain, avec la vente. Et surtout, j'ai fait 20 ans de rugby. J'ai donc appris à créer des équipes et à faire avancer des équipes et à avoir un sens de la tactique. Voilà, ça, ce sont mes qualités, sans aucune humilité pour le coup. En revanche, et c'est là où mon humilité intervient, je ne suis pas intéressé par la gestion financière, je ne suis pas intéressé par tout ce qui est administratif et organisation. Donc, toute ma vie, je me suis entouré de gens compétents. Et il faut avoir le courage de s'entourer de gens compétents. Il ne faut pas en avoir peur. La plupart des dirigeants ne s'entourent pas de gens surcompétents parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de perdre leur job et de se faire bouffer par ceux qui vont embaucher. Moi, je n'ai jamais eu peur de ça. J'ai créé des équipes. J'ai créé des équipes enthousiastes. Toute ma vie, j'ai vécu avec des gens enthousiastes, des gens qui travaillaient beaucoup, qui étaient... Bon, il y avait une ambiance géniale dans cette entreprise Cartier qui est devenue plus tard Richemont. Et franchement, j'ai duré toute ma vie comme ça. Et ça a été très bien. Mais j'ai toujours délégué aux plus compétents que moi les matières pour lesquelles je n'avais ni le goût ni la compétence. Et ça ne m'a pas empêché de rester le patron.
Et bien sûr, voilà. Bien sûr. Et alors justement, être un patron, concrètement, j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça signifie. Et surtout, pour toi, quels sont les talents? Donc tu me parlais d'humilité, mais quels sont les talents qui sont nécessaires en fait pour diriger une entreprise où tu as des gens brillants qui sont en dessous de toi? Peut-être la communication, le management, je ne sais pas. Mais quels sont les talents au-delà des compétences, tu vois, juste de ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus?
Alors, le premier talent, il ne faut pas l'oublier, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas seulement travailler comme un âne. C'est faire travailler les autres. Pour faire travailler les autres, il faut être exemplaire. Il faut être là avant eux et il faut partir après eux. C'est une règle de base idiote, mais c'est la bonne règle. Et c'est toujours la même. Après, il faut avoir à cœur de valoriser ton propre talent. Moi, si tu veux, je te le répète, je suis très à l'aise dans la création et très à l'aise... Ouais. Dans la vente, dans le commercial. Bon, j'ai toujours été comme Napoléon au pont d'Arcole, hein, comme Bonaparte au pont d'Arcole. J'ai toujours été devant mes équipes et pas derrière.
Ouais, c'est ça.
Il faut montrer l'exemple. Ouais. Bon, après, il faut avoir un sens de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé. Et surtout, j'ai une mémoire que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup ma mémoire. Et au fur et à mesure que je mets en place des structures, que je donne des instructions ou que je monte des opérations... ou des stratégies, ou des campagnes de pub, ou de peu importe, je me souviens de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Bon, en plus, j'ai un système de cahiers de notes, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, ce n'est plus des cahiers, c'est des ordinateurs. Mais le principe est toujours le même. Il faut être présent, il faut être sur le terrain. Il faut être vraiment... Celui qui s'enferme dans son bureau pour réfléchir et diriger à distance, en général, ça ne va pas très loin. Ça ne dure pas longtemps.
Parce que c'est ce qui te permet aussi, j'imagine, d'avoir ce leadership. Le fait que tu es exemplaire, bah, les gens te font confiance, au-delà de ton charisme naturel. Mais c'est vrai que je me dis, pour emmener des gens aussi brillants. Alors après, la boîte Cartier est quand même mythique et elle fait rêver. Mais je veux dire, je pense que ça tient aussi beaucoup à ta personne et au fait que tu as un certain... Enfin, tu as clairement un leadership qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi. Et je sais d'ailleurs que tu as eu aussi beaucoup de personnes qui ont été, pour toi, des personnes... qui te considérait pardon, comme un mentor, donc que tu as accompagné. Est-ce que ce côté justement d'aide, de partage, pour faire monter aussi en compétence les personnes avec lesquelles tu travailles, c'était important?
Oui, et là on arrive sur une vertu, plus qu'une qualité qui est essentielle dans la vie, c'est la générosité. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas généreux, il ne transmet rien. Moi, je suis par nature extrêmement généreux, c'est ma réputation numéro un. Et je suis généreux, à la fois attentif aux autres, et puis, je suis généreux à la fois de ma personne et même de mon argent, je veux dire. Quand il faut aider, je n'hésite pas, etc. Je ne suis pas obsédé par le pognon, obsédé par la maladie de l'argent. J'ai envie toujours de partager avec les autres. Et je pense que ça fait partie des vertus cardinales d'un dirigeant, d'un patron. Il faut être généreux avec les autres, s'intéresser à eux, leur consacrer du temps et parfois... les aider matériellement.
Bah, c'est ça qui fait que tu as une certaine loyauté aussi des personnes avec lesquelles tu travailles. C'est absolument. Moment, si tu donnes pas...
Je suis encore aujourd'hui entouré de gens qui sont avec moi depuis des années et avec qui j'ai une complicité réelle. Réelle.
Complètement. Du coup, je pense qu'on a bien parlé de Cartier. Je ne veux pas parler que de ça parce que le temps tourne et que tu as tellement d'autres casquettes que c'est difficile. Mmh. Un des trucs qui m'intéresse énormément, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, c'est l'histoire incroyable du Château La Grésette. Et du vin, moi j'aime beaucoup le vin aussi, le terroir. Donc tu rachètes le château La Grésette près de Cahors, qui est donc un vin magnifique que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es venue l'idée de te lancer dans un pari aussi fou, une aventure aussi folle que de créer ce vin et puis surtout de racheter donc, le château? Et est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà que tu voulais en faire une exploitation ou en fait, ça arrivait un petit peu par hasard?
Pas du tout. J'ai racheté le château La Grésette qui était une très belle ruine en cours de classement, un château renaissance vraiment très abîmé, qui était en cours de classement parce qu'à l'époque, je cherchais pour ma famille, mes enfants, une maison de campagne qui soit pas sur les grands axes Deauville, Saint-Tropez, Biarritz, qui soit vraiment isolée, qui soit dans un bel endroit de la France profonde que j'adore et sur lequel je pouvais exercer ma passion de la pierre. J'adore restaurer des maisons. Toute ma vie, j'ai construit, déconstruit, reconstruit, restauré, etc. Alors le château La Grésette, c'était parfait. Il y avait 12 ans de travaux. Donc, j'ai acheté ce château pour pas très cher, 1 500 000 francs, je m'en souviens encore. Il y avait 16 hectares de terre autour. On m'a dit, lorsque j'ai acheté le château, qu'autrefois, c'était un grand vignoble. On m'a même dit, le notaire m'a dit, vous avez des droits de plantation en zone d'appellation contrôlée pour 3 hectares et demi. Moi, il me parlait chinois, le mec. J'ai rien compris ce qu'il me racontait. Je lui ai demandé de m'expliquer. Et j'ai découvert, en fait, qu'en rachetant ce château, je rentrais dans la famille des appellations contrôlées et que je pouvais raviver la vigne et repartir. Donc, je suis allé voir le maire du village. Je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a expliqué. Et il m'a dit, si vous voulez, monsieur Perrin, c'est moi qui vais le faire. Je suis vigneron moi-même. Je vais vous planter votre vigne puisque vous avez 3,5 hectares de droit. Donc, je vais vous planter 3,5 hectares. Et puis, vous verrez après ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous développer, vous vous développerez. Mais pour l'instant, je vous conseille de donner votre raisin à la coopérative.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'était une étape dans ma vie. J'ai commencé donc à voir fleurir mes vignes. Au bout de 4 ans, on a commencé à vendanger. Puis le raisin, je l'ai vu partir à la coopérative. Il est revenu de la coopérative sous forme de vin dans des bouteilles qui étaient franchement imbuvables. Et là, je me suis dit, alors attendez, je veux bien faire du vin, mais faire de la daube, j'ai pas envie.
Faut quand même, t'avais une petite exigence,
quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à chercher du côté des Bordelais comment on faisait du bon vin et comment et pourquoi. Et j'ai découvert que dans l'histoire d'un bon vin, il y a toujours quelqu'un dont on parle assez peu, qu'on appelle l'œnologue. Et l'œnologue, ce n'est pas celui qui est dans les vignes et qui coupe les raisins aux vendanges. Ce n'est pas celui qui est dans la cave et qui fait le vin. C'est celui qui fait les assemblages. Les assemblages de différents cépages qui composent un vin, que ce soit à Bordeaux, à Cahors ou ailleurs. Donc j'ai rencontré en 1988... Je fête les 30 ans cette année, d'ailleurs. Dans quelques minutes, je vais déjeuner avec lui.
Génial.
j'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Michel Roland, qui était déjà à l'époque une relative
Sommité,
célébrité,
ouais.
Pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui, une relative célébrité qui avait, avec beaucoup de succès, fait des assemblages à Bordeaux pour des vins connus et surtout qui avait été le premier à faire parler du Malbec argentin.
Mmh, c'est vrai.
Or,
c'est vrai.
Le Malbec argentin, c'est un cépage qui s'appelle le Malbec qui vient de Cahors où il est né.
Mmh.
Et Cahors, comme beaucoup de vignobles français, a été atteint par le phylloxéra en 1860 et a été dévasté même par le phylloxéra.
Qui était une maladie, c'est ça qui a tout rasé.
Pour sauver le cépage du Malbec, on a envoyé, à l'époque, on a envoyé en Argentine des plants, oui, des plants, des restes de plants de Malbec. Les Argentins ont planté, ils ont sauvé Malbec et l'Argentine est devenue le plus gros producteur de Malbec du monde. Mais le vrai Malbec,
il est de Cahors.
Français. Mmh. Et il vient de la région de Cahors. Donc, après cette crise de la vigne terrible, après la Deuxième Guerre, les Cadurciens ont commencé à replanter des plants de Malbec, dont certains sont revenus d'Argentine. Dans une terre assainie qui avait plus cette espèce de bestiole du phylloxéra, on a replanté du Malbec, ce qu'on appelle aussi le Côte,
ouais.
Et qu'on trouve aussi dans la Loire, du côté de Chinon. Il y a
c'est
du
vrai.
Côte.
Il y en a un peu.
Donc, voilà, l'aventure du Malbec et du Cahors, elle a recommencé après la dernière guerre, dans les années 55, par là, 50-51, les premières plantations. Et voilà, donc moi, lorsque j'ai compris cette histoire, j'en ai parlé avec Michel Roland, je lui ai proposé de venir avec moi et de m'aider à faire du vin. Je lui ai dit, mais monsieur Roland, je fais mon vin à la coopérative. Il m'a dit, ça va être un problème, on va essayer. Donc, il a fait le 88, le 89, le 90 et le 91 à la coopérative.
Ouais.
Il a réussi à faire un 90 exceptionnel. Et il m'a dit, mais c'est la dernière fois, je ne le ferai plus. Parce que travailler avec les coopérateurs, c'est infernal.
Mais quel est le problème, entre guillemets, de travailler à la coopérative?
Le problème à la coopérative, c'est qu'ils font le vin en dépit du bon sens.
D'abord.
Le vin, quand on veut en faire un grand vin, un vin soigné, d'abord, on le vendange à la main. Mmh. Eux, ils vendangent à la machine. Deuxièmement, on le met dans des petites cuves de manière à pouvoir sélectionner les parcelles que tu as vendangées.
D'accord.
Bon, eux, ils mettent ça dans des cuves monstrueuses, ils mélangent tout. Bon, donc à la sortie, tu as un produit médiocre. C'est pas mauvais, c'est pas imbuvable, mais c'est médiocre. Moi, je voulais faire de la qualité et de l'excellence. Donc, Roland m'a convaincu et j'ai promis à Roland de construire un chai de vinification à la Grazette, ce que j'ai fait. J'ai fait un chai souterrain qui fait 3 étages, qui fait 20 mètres de profondeur. Et l'intérêt de ce chai, qui est donc un peu à la verticale, c'est de pouvoir traiter le raisin et le jus de manière naturelle, sans faire des pompages, sans, etc. Bon, je te fais court, et d'espérer faire un jour un grand vin. J'ai donc ouvert et inauguré ce chai en 1992. Et le château La Grazette 1992, qui a été fait par Roland dans le chai de La Grazette, a eu une médaille d'or instantanément. Et est resté un très bon vin. On en boit encore aujourd'hui, c'est encore très bon. Bon, et depuis ce jour-là, avec Michel, d'abord on s'est liés d'amitié, une véritable amitié. On est vraiment, vraiment comme des frangins tous les deux. Et on a évolué. J'ai racheté des vignes. J'avais 3 hectares, je te rappelle. Maintenant, j'en ai 94.
Oui, ça change.
J'ai racheté de la vigne dans la région et tout autour de la Grazette, j'ai racheté petit à petit. J'ai replanté des nouvelles vignes avec des méthodes avec des cépages plus actualisés, de meilleure qualité, etc., etc. Bon, voilà. On a décidé de faire de l'excellence. Les 94 hectares, ils sont vendangés à la main. Et on a des cuves, des micro-cuves pour faire des micro-cuvées. Et bien entendu, c'est Michel qui assure le suivi œnologique complet et les assemblages.
Mmh.
Et aujourd'hui, bah, le Malbec qui sort de la Grazette est le plus célèbre au monde.
Complètement.
Et de loin, il a été noté par Robert Parker à plusieurs reprises à des niveaux équivalents à Pétrus, Latour, etc. Donc aujourd'hui, je suis très, très fier du résultat. La seule chose dont je ne suis pas encore fier, c'est qu'on ne gagne toujours pas d'argent. On n'en perd plus. Hein, on en a perdu.
Mais en même temps, les
années.
Métiers du vin, on dit c'est des métiers de passion. C'est, oui, il y a des gens voilà. qui gagnent de l'argent, mais bon, c'est pas toujours fait oui. pour ça, quoi.
C'est des métiers de passion. On n'y gagne pas beaucoup d'argent, mais on y trouve énormément de plaisir.
Mais quand même, ce que je trouve rigolo, c'est qu'à la base, donc, tu le fais plutôt pour ta famille, et finalement, tu rentres un peu dans le jeu et tu te passionnes pour le sujet. Tu rencontres mmh. Michel Roland, etc. Et finalement, maintenant, bah, comme tu dis, tu as 90 hectares de vignes, donc c'est énorme.
94,
c'est mmh. ça. Tu vends en Chine énormément, enfin partout dans le monde. Donc en fait, tu as quand même pas pu t'empêcher de faire du business et de développer.
Oui, non. Non, on est d'accord. C'est l'histoire des choux de Saint-Pé, la célèbre histoire, où il y a un type qui veut se mettre à la retraite à la campagne. Il achète une petite maison avec un petit champ et commence à planter quelques choux. Et 3 ans après, il a la plus grosse affaire de choux de France. Bon, non, je suis un entrepreneur. Donc, c'est vrai que j'ai développé. Et puis, à la même époque, j'ai racheté l'école des cadres. Ouais. Que j'ai redéveloppé, j'ai créé des campings. Alors, je voudrais te dire une chose, c'est que j'ai toujours été marqué par la lettre C.
D'accord.
Quartier.
C'est vrai.
École des cadres.
Cahors.
Camping. Voilà, donc le C m'a... Si le C était un numéro sur la roulette ou la roue de la fortune, j'essaierais de tirer le C. Malheureusement, ce n'en est pas un. Mais voilà, et le C m'a marqué. Et j'ai souvent fait des C impossibles. Reprendre Cahors, c'était un truc. Refaire du Cahors, c'était un truc impossible. L'école des cadres, tout le monde m'a dit, tu vas jamais y arriver. Bon, et finalement, j'y suis arrivé. L'école des cadres est devenue EDC Business School. C'est une des meilleures écoles françaises maintenant. Elle est toujours dans les 4 ou 5 premières. Bon, Cahors est redevenu un vignoble respectable et respecté. Quartier, n'en parlons pas.
Exactement.
Et les campings, j'ai fait quand même un joli coup parce que j'ai inventé un nouveau concept pour les campings qui a très bien marché et que je viens de revendre.
On ne penserait pas qu'Alain-Dominique Perrin, quand même, l'icône du luxe, fasse des campings. Mais en fait, tu l'as repensé complètement différemment. Est-ce que tu peux expliquer justement en 2 mots le concept de ces campings quand même?
Le concept, d'abord, c'est les journalistes qui ont baptisé tout de suite ça glamping et plus camping parce que c'était glamour. Je suis parti du principe qu'il fallait débarrasser les campings du plastique. Tu vois, on parle du plastique aujourd'hui. Mmh. Moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Ouais. Et je détestais ces mobilhomes en plastique qui étaient partout. Tout était en plastique dans les campings. Ça me révoltait. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai remplacé les mobilhomes par des tentes en bois et en toile de qualité, un peu comme on voyait à l'époque dans les safaris au Kenya et en Tanzanie. Et j'ai proposé aux gens d'arriver au camping avec leur brosse à dents, de ne plus arriver avec ou des caravanes ou des tentes énormes qu'il fallait planter avec du vent.
L'enfer,
c'était une horreur, l'enfer. Mes campings, ils étaient prééquipés de tentes très jolies pour 2, pour 4, pour 6. Selon la taille de la tente, il y avait ou il n'y avait pas une salle de bain intégrée, etc., etc. J'ai créé des blocs sanitaires de grand luxe à proximité des tentes. Bon, j'ai fait un truc, une espèce d'hôtellerie de plein air luxueux. J'ai fait ça sur l'île de Noirmoutier. J'en ai fait 3 sur l'île de Noirmoutier, en bordure de plage. L'emplacement est très important. Et j'ai commencé à louer mes tentes à des tarifs très élevés, tarifs luxueux, mais il y avait un service luxueux. On a eu une très bonne idée, c'est qu'on a créé, à l'intérieur de nos campings, on a créé des zones pour enfants selon leur génération. Il y avait les zones pour enfants de 3 à 7 ans, de 8 à 12 ans.
Oui, un peu le club maître des campings.
Voilà,
quoi.
Exactement. Et on s'est occupé des enfants. Et là, ça a été un succès énorme. Les gens sont venus chez nous parce que, 1, on s'occupait de leurs enfants. 2, ils étaient luxueusement logés. Et 3, ils étaient au bord de la mer, ils étaient sur la plage. Voilà. Et puis, je les ai revendus il y a maintenant un peu plus d'un an. Et à une société formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Sandaya, qui était une société qui s'est beaucoup spécialisée dans les campings un peu sur mes principes et qui est en train de se développer. Et j'en ai gardé un, j'en ai encore un.
Ah.
Parce que celui-là, je suis en procès sur ce camping avec la commune locale. Et je dois dire que, à la seconde où je te parle, j'ai gagné les procès.
Ah bah félicitations.
Voilà. Donc,
je sais que c'est un sujet qui dure un peu
en plus.
Les choses devront
s'éclaircir pour moi bientôt.
Écoute, bravo, parce que je sais que ça dure depuis un moment. Je te remercie d'avoir parlé de ça. Le dernier sujet dont je vais parler, c'est évidemment l'art contemporain, qui est hyper important pour toi. Encore un C, exactement, elle n'est pas citée. Comment est-ce que tu as découvert l'univers de l'art contemporain? Comment t'es tombé dans la marmite?
Alors, je suis tombé dans la marmite, je dirais progressivement, comme tout le monde, comme François Pinault et comme les autres. On a d'abord côtoyé dans notre vie... moi, n'oublie pas que j'ai été antiquaire, donc j'ai côtoyé l'art très, très rapidement.
C'est vrai.
Et l'art, c'est quelque chose qui rentre en toi. Parce que l'art, c'est aussi un regard porté sur quelque chose. Ça peut être un meuble, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être simplement un trait de peinture sur un objet, ça peut être beaucoup de choses. À partir du moment où tu réagis, je dirais, de manière émotionnelle, tu rentres dans ce qu'on appelle l'art. Bon, ensuite, j'ai eu une grande rencontre dans ma vie. À la fin des années 70, j'ai rencontré César, avec qui je suis devenu très, très ami. Et c'est avec César que j'ai eu l'idée de créer la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Mmh. Car César, à l'époque, m'avait dit, tu sais, nous, on a besoin des entreprises et des patrons pour nous aider à exposer mieux et plus vite. Mmh. Il m'a dit, parce que travailler avec l'État, c'est un cauchemar.
Entre surtout lui, avec la taille de ses œuvres.
Entre le moment où l'État te dit, je vais t'exposer, et le moment où il t'expose, il se passe entre 2 mois et 20 ans. Il m'a dit, c'est infernal. L'intérêt des patrons, des dirigeants, c'est donc l'intérêt du mécénat, c'est que l'argent privé, d'abord, se décide beaucoup plus rapidement que l'argent public. Et deuxièmement, les actions sont beaucoup plus rapides. Et voilà comment j'ai créé la Fondation Cartier en 1984, donc il y a très longtemps. On a été la première fondation d'art contemporain créée par une marque de luxe.
Bien sûr, alors que tout le monde a suivi maintenant.
Tout le monde a suivi. Vuitton, Prada, Hermès, Pinot et Kering, etc., etc. Et je suis très fier de ça, je trouve que c'est bien et j'espère que ça continuera.
Est-ce que tu as eu des moments dont tu te rappelles, des œuvres que tu aurais vues ou des artistes que tu as rencontrés qui t'ont particulièrement marqué ou tu as été particulièrement ému, à part peut-être César, qui
César,
était en plus un ami proche.
Dire. Le premier qui m'a ému, c'est César. J'ai beaucoup aimé le travail de César parce que c'était un travail extrêmement viril et quasiment brutal sur la matière qui était les carcasses de voitures, la ferraille, etc. Donc c'est quelque chose d'assez agressif et avec un humour infini. Et donc j'aime l'humour, j'ai envie de me marrer dans la vie, j'ai pas envie de pleurer. Et César est un artiste à la fois dur, brutal et extrêmement joyeux. Et qui a quand même marqué son temps. Aujourd'hui, on s'en rend compte, il vient d'y avoir une très grande rétrospective à Beaubourg, au musée Pompidou, et qui était formidable. Et on a vu à quel point César est un artiste qui a été important dans sa génération. Voilà, puis après, j'en ai côtoyé d'autres. Et puis, j'ai été de plus en plus attiré par la... Ça, c'était grâce à mon épouse de l'époque. J'ai été attiré par la photo.
D'accord.
Et j'ai découvert derrière la photo des photographes. Et derrière les photographes, parfois, certains grands artistes. Pas toujours, mais certains très grands. Et je dois dire que je me suis lié d'amitié avec des grands photographes. Et j'ai compris comment, à travers l'œil de leur caméra... une photo d'un grand était différente d'une photo d'un photographe de week-end. Quoi. Voilà.
Pour terminer, j'aime bien terminer l'interview justement par des questions un petit peu plus personnelles, surtout sur ta façon de penser, de décider, de t'organiser. Ma première question justement, c'est est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemblait, parce que je sais que tu es encore très actif, mais à l'époque où tu étais président de Richemont par exemple, une journée type d'Alain-Dominique Perrin? Déjà, est-ce qu'il y avait des journées types ou est-ce qu'en fait ça changeait littéralement tout le temps? Et globalement, à quelle heure tu te lèves le matin? Est-ce que tu as des rendez-vous tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux, pour que les gens se projettent un peu et comprennent qu'est-ce que c'est que la vie d'un Alain-Dominique Perrin?
Ouais, alors des journées types, malheureusement, dans la vie d'un entrepreneur, il y en a, parce que tu as les conseils d'administration, tu as les comités exécutifs, tu as les comités d'entreprise, tu dois te parler avec ton personnel, tu dois parler au syndicat, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses répétitives qui te reviennent sans arrêt, au cours duquel tu perds un peu de temps, mais pas complètement, c'est quand même nécessaire. Je me lève tôt, je suis un lève-tôt. Je suis un couche-tard et un lève-tôt. Je ne dors pas énormément.
Ça, c'est une chance.
Je me lève à 6 heures et je me couche rarement avant minuit ou 1h du matin. Bon, j'ai la chance.
Oui, donc tu dors très peu quand même.
Je dors assez peu. Néanmoins, j'ai un don qui me vient de mon père. Je fais une sieste d'un quart d'heure tous les jours.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup
d'entrepreneurs. Je dors dans mon fauteuil. Hein,
beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé dans leur vie me disent qu'en fait, ils dorment peu, mais ils arrivent à s'endormir en un instant et à faire des petites siestes comme ça, micro-siestes.
C'est absolument. Et c'est pour ça que je me trimballe avec un chauffeur depuis toujours. Je dors dans ma voiture. Voilà. Et ça me retape formidable. Moi, si je dors un quart d'heure après un déjeuner ou dans l'après-midi vers 4 heures.
Je
suis reparti pour 4 heures ou 5 heures.
Ça marche. Donc, tu te lèves tôt.
Lève tôt, je me couche tard. Je dors entre 5 et 6 heures par nuit.
Okay.
Les week-ends, je m'oblige à dormir 8 ou 9 heures.
D'accord.
J'ai du mal, mais j'y arrive. Il faut quand même que je me retape. Et puis, je fais du sport. J'ai fait du sport toute ma vie. Je bouffe trop, je bois un peu trop. Pas beaucoup trop, mais un peu.
C'est le côté généreux.
C'est le côté généreux. J'ai des kilos en trop. Et je lutte contre ça. Un peu par le régime et beaucoup par la dépense physique. Toute ma vie, j'ai fait beaucoup de choses physiques. J'ai fait, comme je disais, beaucoup de rugby, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de cheval, beaucoup de voile. Et maintenant, je fais énormément de chasse, mais de la vraie chasse. C'est-à-dire que je vais dans le nord de l'Écosse et que je marche. Et, et pour moi, la chasse en Écosse, par exemple, c'est d'abord la marche. On marche en colline, donc pas en terrain plat, et on fait au moins 6, 7, 8 kilomètres par jour. Et ça, c'est important.
Ouais. C'est sûr. En plus, dans des conditions climatiques qui fait que tu brûles un peu de calories.
Oui, oui.
Ouais, c'est sûr. Une autre question que j'aime assez, c'est est-ce que tu aimes les rituels, les habitudes ou pas du tout ? Et si oui, est-ce que tu en as ?
Non. Alors moi, je n'aime pas les rituels, mais je suis superstitieux. J'ai quelques superstitions. Idiotes qui datent de mon enfance et qui me font rigoler. Jamais 13 à table.
Ouais.
Je ne passe jamais sous une échelle.
D'accord.
Et je ne mets jamais d'argent sur un lit.
Il n'y a pas l'histoire du sel aussi qui t'embête ? Tu sais, quand on se passe le sel de main en main ?
Non, non, ça, je m'en fous.
Ça, tu t'en fous.
Oui. Non, non, moi, j'ai que trois superstitions très claires.
Très bien.
Alors, 13 à table, surtout pas. Je te le répète, pas passer sous une échelle, c'est très dangereux. Et ça y est, j'ai oublié le troisième.
Je viens de l'échelle, le 13 à table et...
Ah oui, l'argent sur le lit.
Et l'argent sur
jamais
le
d'argent
lit.
Sur un
alors
lit.
Alors ça, je ne savais pas, tu vois, je ne la connaissais
pas.
C'est
des vieux trucs paysans, ça. Voilà.
Une autre question, c'est les livres ou le livre qui t'ont le plus marqué ou que t'as le plus offert, peut-être. Ça peut être autant des livres de littérature, ça peut être des livres d'art, ça peut être du business, ce que
non,
tu veux.
Non, moi, tu sais, je lis beaucoup, malgré le fait que je sois débordé. Mais justement, si je dors pas en voiture, je lis.
Ouais.
Je lis en avion, je lis dès que je peux. J'ai des périodes de lecture, j'ai des périodes où je lis, je dévore les bouquins, puis j'ai des périodes où j'arrive pas à les terminer. En ce moment, par exemple, je suis sur un livre très sérieux, malgré son titre, qui s'appelle Pirate. C'est l'histoire de la piraterie, mais c'est une thèse. Et c'est une histoire très sérieuse de la piraterie. La piraterie remonte à l'Antiquité et à l'organisation de la piraterie. J'en ai lu un peu plus de la moitié, mais ça fait 2 mois que je suis dessus, je n'arrive pas à le finir. C'est un peu hard comme lecture.
Oui, j'avoue que c'est pas
difficile
le plus
parce
reposant.
Que c'est très technique, en fait. Ce n'est pas du tout l'histoire de Barbe Noire et Morgane. Hein. Bon, mais je dois dire que c'est quand même passionnant. Le livre récent qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus marqué, c'est Sapiens.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé ce livre. Il remet sur la table une quantité de choses. Très intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de livres dans ma vie qui m'ont marqué. Je dois dire que je suis plus intéressé par des bouquins d'histoire. Ça peut être histoire d'humanité. Je lis quasiment jamais de policiers. Ça ne m'intéresse pas.
Oui.
Mais j'ai lu, par exemple, j'ai adoré, j'ai lu 2 ou 3 bouquins sur Richelieu. J'ai lu les 2 ou 3 bouquins qui existent sur Talleyrand.
Ouais.
J'ai lu évidemment les quantités de bouquins sur Napoléon.
Il y a une biographie d'ailleurs qui est assez géniale de Talleyrand. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est... Il y a Max Gallo qui en a fait une, mais il y en a une autre qui est très bien.
Oui, il y en a une autre qui est mieux. Je cherche le nom. Ouais. Moi, j'en ai lu 3 sur Talleyrand. Et puis, il y a un autre Talleyrand qu'on connaît mal. C'est un descendant de Talleyrand qui a eu un rôle assez important dans la constitution, enfin dans le développement de la Russie pré-communiste.
D'accord, je regarderai.
Je
mettrai ça dans les notes.
Il y a eu
un
Richelieu d'ailleurs
et
un Talleyrand, mais qui sont des descendants des célèbres, qui sont beaucoup moins connus. Et j'aime les livres d'histoire. Je continue à en lire et à en chercher. Ah oui, il y en a un qui m'a marqué. Si, il y en a un. C'est l'histoire en 2 tomes, il y a 1400 pages, qui a été fait par un Américain qui est le plus grand spécialiste, l'histoire de Marco Polo. Réputé comme être la véritable histoire de Marco
D'accord.
Polo. Son parcours absolument dément, sa vie auprès du descendant de Gengis Khan, qui s'appelle Kublai Khan, et qui est une histoire formidable.
Ça, je mettrai ça aussi
c'est
dans
une
les
épopée
notes.
Magnifique. C'est ça. Et c'est à lire absolument. C'est en 2 tomes. Pas facile à trouver.
Un livre d'aventure.
On le trouve encore dans la grande librairie de la rue de Rivoli.
D'accord.
Je sais que j'en ai offert plusieurs fois et que c'est là que je le trouve. C'est un des livres qui m'a le plus fasciné de toute ma vie.
Bah, je le mettrai dans les notes en tout cas. Merci beaucoup. 2 dernières petites questions et je te laisse tranquille. Je sais que tu es pris. Si on revenait 30 ans, 40 ans, assez longtemps en arrière, et que tu pouvais parler au plus jeune ou petit, Alain-Dominique Perrin, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Ça peut être un conseil de vie personnelle, vie professionnelle, peu importe. Quel serait le conseil que tu aurais envie de lui donner ?
C'est difficile parce que qui dit conseil dit prétention. Et moi, je ne suis pas un mec prétentieux. Mais il y a des conseils de base et tu les as entendus. 1, la générosité. 2, le travail. 3, l'équipe. Jamais tirer la couverture à soi. Le plus grand défaut de la plupart des patrons, c'est de prendre gloire de leur réussite. C'est pas bien. La réussite, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qu'on partage. Aucun patron n'a réussi ça.
Ouais, c'est sûr.
Aucun. Ils ont tous réussi avec des équipes. Et ils doivent toujours remercier leurs équipes. C'est indispensable. En revanche, il y a une chose que tu dois prendre seul. C'est les échecs. Mmh. Un échec, tu te le prends pour toi et tu ne le partages pas. Mais la réussite, tu la partages. Voilà.
Ouais, ça tombe très bien parce que ma dernière question qui n'est pas facile, mmh. c'est pourtant je pense que tu n'en as pas eu tant que ça. Mais est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement difficile ou un échec dont tu pourrais nous parler parce qu'il t'a appris véritablement quelque chose ?
J'ai eu des difficultés à certains moments, des vrais échecs, franchement pas. Mmh. J'ai eu dans ma vie avec Cartier, j'ai eu quelques échecs produits, évidemment.
Oui, bien sûr.
Je me souviens, par exemple, on a lancé le jeu de cartes Cartier, ça n'a pas tellement marché. On a lancé un rasoir Cartier qui est très joli, d'ailleurs il est devant toi sur mon bureau.
Ouais.
J'en ai fait faire des compressions par César.
Je vois ça.
Il était très joli, mais ça n'a jamais marché. Conclusion, je ne me rase plus, j'ai de la barbe, c'est depuis ce jour-là. Et donc ça, c'est des échecs momentanés, tu vois, dans une carrière, mais qui ne sont pas importants. Je n'ai pas la mémoire d'avoir eu un véritable, horrible échec. Mmh. J'ai eu des sensations, notamment, je te parlais du camping, pour lequel j'ai dû entamer une très grosse procédure que je viens de gagner. J'ai eu, à un moment, peur de l'échec,
ouais,
mais il
n'y
a pas eu d'échec. Je pense qu'il faut savoir bien gérer sa vie, bien gérer ses équipes. Il faut avoir la vision, il faut avoir le temps de réfléchir et de penser à ce qui peut arriver dans quelques années. Et si je devais refaire le monde, tu vas être bluffé. Il y a une chose que j'interdirais, c'est l'Internet.
Bah moi, ça m'embêterait un petit peu.
Oui, mais l'Internet, je ne l'interdirais pas complètement, mais je le canaliserais complètement. Et aujourd'hui, le monde souffre de ne pas avoir prévu la législation qu'il aurait fallu prévoir pour l'Internet. Les grands géants Google, Amazon et compagnie aujourd'hui domine quasiment la planète sans payer les impôts qu'ils devraient payer.
C'est vrai.
Et ça, c'est une erreur des États et c'est une erreur de l'humanité. C'est pas grave, on va corriger le temps, mais ça va être long. On aurait mieux organisé l'arrivée d'Internet aujourd'hui. Je pense qu'Internet serait plus utile et moins néfaste aux enfants, à l'éducation, etc., etc. Bien entendu que dans Internet, il y a des magnifiques avantages et notamment ce qui a fait ton succès à toi, le e-commerce, disons. Mais le e-commerce est un bon exemple. La législation en matière de e-commerce internationale est quasiment inexistante. Mmh. Et ça ne peut pas durer.
Ouais. Non, c'est sûr. C'est
voilà.
Sûr. Bah, merci mille fois, Alain. La dernière des dernières questions, et je te laisse tranquille, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir plus encore sur toi, de suivre tes actualités. Est-ce qu'on peut le faire éventuellement sur Internet ? Quel est le meilleur moyen, en fait, de suivre un peu tes diverses activités ?
Alors, moi, j'ai un site qui est un désastre. Je ne m'en occupe pas du tout. Les gens qui s'en occupent très mal. J'ai même envisagé de l'arrêter, ce site, parce qu'il n'est pas à jour. Mais je le promets, je suis en train de m'en occuper.
D'accord.
Il sera à jour dans à peu près 3 mois.
D'accord.
Et après, j'aurai quelqu'un qui s'en occupera.
C'est
voilà.
Quoi ? C'est le site mais, c'est ton moi, site personnel, Alain
Oui, c'est mon site personnel, d'accord. Mais j'ai beaucoup diminué. Encore une fois, je n'ai pas envie de montrer mon ventre sans arrêt.
Ouais, ouais.
Donc, je mettrai le minimum de ce qu'on doit savoir. Voilà. Puis de toute façon, si tu me googlises...
Toi, t'es pas du tout sur les réseaux sociaux, on est d'accord.
Non, mais si tu me googlises, tu vas voir que tout le monde s'en est occupé. Donc il y a plein de choses
sur
moi.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Il y a des choses
vraies,
il y a des
choses moins vraies, mais c'est pas grave. Les 8 pages que j'ai eues de notes, j'ai pas eu de problème à trouver des informations.
Voilà, et ça vient pas de moi. C'est une accumulation d'informations. J'ai été interviewé toute ma vie, donc je sais pas, j'ai dû répondre à, on va dire, 1000 interviews dans ma vie, peut-être 2000, j'en sais rien. Donc évidemment que ça donne de la matière,
c'est
du
sûr.
Grain à moudre aux gens qui passent leur temps à vouloir fabriquer de la matière pour Google. Donc finalement, il suffit d'aller sur Google. Et...
Bah moi, ça ne sera pas sur voilà. Google, c'est audio ouais. uniquement.
Ok, bravo.
Merci beaucoup.
Merci.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.